Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christophe Brunella, chargé de communication à la Grainerie. Pouvez-vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
J'ai rejoint la Grainerie il y a 2 ans et demi en tant que responsable de la communication. J'avais auparavant un parcours à la fois de journaliste, j'ai travaillé dans la production audiovisuelle et puis quand je suis arrivé à Toulouse il y a 10 années, j'ai choisi de travailler dans le secteur culturel et le secteur des arts du cirque m'a ouvert ses portes, donc je suis rentré avec plaisir. Puis chemin faisant, voilà, j'ai rejoint carrément l'équipe de la Grainerie, j'en suis très heureux. Quand on est responsable de la communication, on doit à la fois se préoccuper d'une stratégie sur les réseaux sociaux, de l'image de la Grainerie vis-à-vis des autres lieux culturels de la ville et de l'agglomération. On travaille aussi avec des graphistes sur les affiches, les différents supports imprimés. On essaie à la fois d'établir un plan de communication, d'en maîtriser le budget et de renforcer notre notoriété et notre audience.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours professionnel ?
Comme j'ai 50 ans, mon CV est un peu long, mais ça va bien se passer. J'ai d'abord été formé à l'université en sciences économiques et sociales. J'ai vraiment cette manière de penser qui est universitaire et très tournée vers les humanités. Un peu par hasard, mais pas tout à fait, je suis devenu journaliste. J'ai exercé ce métier à Paris pendant plus d'une dizaine d'années, principalement pour la télévision. Puis ça m'a amené à travailler en production audiovisuelle. Et puis au tournant de mes 40 ans à peu près, j'ai eu envie de changer de secteur d'activité. Et je me suis appuyé justement sur cette expérience de production pour venir faire de la production dans le secteur culturel. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré d'abord une première compagnie plutôt dans les arts de rue, puis une deuxième compagnie plutôt dans les arts du cirque. J'ai eu la chance en fait d'atterrir à la Grainerie dès mon premier emploi dans ce secteur-là. Je suis arrivé à la Grainerie en 2016, en tout cas dans les murs du bâtiment, puisque le bâtiment abrite plusieurs compagnies et bureaux de production. Quand le poste de responsable de la communication s'est libéré, j'ai été candidat et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe il y a maintenant 2 ans et demi, bientôt 3.
Vous travaillez au pôle de communication à la Grainerie. En quoi cela consiste-t-il ?
Travailler au pôle communication de la Grainerie, ça implique 2 choses en termes de fonction, j'ai envie de dire. D'abord, je gère une équipe de 2 personnes. Une personne qui est contractuelle à temps partiel, mais de manière pérenne en CDI à mes côtés, Clara, qui est ma collaboratrice au quotidien. Et on accueille depuis cette année Jules, qui est lui étudiant et alternant en communication. Donc déjà, être responsable d'un pôle dans une structure comme la Grainerie, c'est déjà gérer une équipe, même si elle n'est pas très grande, mais c'est quand même la gérer. C'est gérer un budget, c'est mettre des moyens en œuvre pour assurer au mieux la communication de la Grainerie, sa réputation, faire connaître son image et ses activités multiples au public qui croise son chemin.
Quelle est votre journée type en tant que responsable de communication ici ?
Je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est un métier où il faut justement aimer ça. Il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Alors après, il y a quand même des récurrences, des choses qui se passent un peu tout le temps. Donc j'arrive le matin, plutôt assez tôt, vers 8h, je trie mes mails. Ensuite, je vérifie ce que j'ai mis dans mon agenda comme tâche de travail dans ma journée. J'ai assez fréquemment des réunions, soit avec la direction à propos de la programmation, soit avec mes collègues des différentes activités, puisque je dois veiller à la communication de l'ensemble des activités de la Grainerie. Donc on se rencontre régulièrement. On a des temps aussi collaboratifs avec l'équipe, donc Clara et Jules qui m'accompagnent. Voilà, une journée type, elle est faite de rendez-vous, d'un peu de graphisme, d'écriture, d'échanges avec des partenaires à l'interne, à l'externe.
Vous avez travaillé en tant que journaliste reporter, puis producteur à la télévision et dans les arts du cirque. Quel regard avez-vous sur ces différentes expériences ?
Alors, c'est des expériences qui se complètent. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai été journaliste, j'étais journaliste culturel. Donc la matière culturelle, la matière artistique m'intéressait déjà beaucoup. Elle était même au cœur de mon métier, en vérité. Donc en fait, j'ai fait un pas de côté. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ma vie professionnelle, j'en avais assez, mais pas assez de manière fatiguée, mais j'avais fait mon compte sur le fait d'être du côté de la personne qui commente ou qui rapporte le fait d'actualité de la culture au public. Et j'avais envie de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des artistes, du côté des structures qui accompagnent la création artistique, pour voir comment ça se passait. Mais ces métiers se complètent parce qu'en fait, ils font appel à de l'organisation, à de l'expression, que ce soit avec des images, avec des mots, avec du son, avec des vidéos. Pour moi, c'est pas très différent. Et après, l'expérience de production que j'avais eue en audiovisuel, produire, c'est établir un rétro-planning, gérer un budget, mettre en œuvre des moyens pour obtenir une fin. Produire la communication pour un lieu culturel, c'est pas très différent. Aider des artistes à produire leur spectacle, c'est pas très différent. Les contextes sont différents, les échelles économiques sont différentes. Mais les méthodes qu'on met en œuvre ne sont pas très différentes. Je trouve qu'en fait, c'est finalement ça qui est important dans ces métiers-là, c'est arriver à comprendre quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place et de finalement se rendre compte que quand on les maîtrise suffisamment bien, on peut les déployer dans différents environnements et avec différentes personnes. Et ça, c'est assez riche, en fait.
Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans le domaine artistique ?
Je travaille dans les arts du cirque, hein, qui m'intéresse profondément. Je m'intéresse aussi beaucoup au monde des images. Je me suis beaucoup intéressé à la bande dessinée. J'en parle parce que c'est pas anodin, en fait. La bande dessinée, comme les arts du cirque, sont réputés pour être des arts populaires. Au sens où, en fait, ils touchent un public large. Ce sont des arts qui ne nécessitent pas nécessairement une grande érudition. Ils ont une forme d'accessibilité immédiate, un peu comme ça. En vérité, ce sont des arts complexes et les spectateurs, comme les lecteurs de bande dessinée, sont des gens finalement assez érudits, contrairement aux préjugés qu'on pourrait avoir. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire ces arts qui sont un peu... qui naissent aussi dans les marges, en fait. Le cirque a une histoire avec les arts forains, à la périphérie de la ville, le chapiteau itinérant. C'est pas forcément la belle salle de spectacle, même si on a une très belle salle de spectacle. Mais je veux dire, il y a quelque chose dans l'identité de ces formes artistiques qui me touche, personnellement.
Ça rend le domaine plus rustique, entrepreneur, plus dans ce domaine-là ou...
Ouais, c'est des arts de la débrouille et c'est des arts de la solidarité. En tout cas pour les arts du cirque, c'est certain. Chez les dessinateurs de bande dessinée, c'est un art de la débrouille parce qu'ils sont souvent seuls derrière leur table. Il faut trouver les moyens de s'éditer et tout ça. C'est des arts pauvres, en fait. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est ce qui, pour le coup, fait toute leur noblesse.
Vous avez choisi de mettre en avant des personnalités circassiennes en renommant des salles à la Grainerie. Pourquoi et qui a sélectionné ces artistes ?
En fait, quand je suis arrivé à la Grainerie il y a 2 ans et demi, il y avait un chantier qui était là, que j'allais récupérer. C'est ce qu'on appelle un chantier de signalétique, c'est-à-dire mettre en place des codes visuels et verbaux, des mots, des phrases, des images, pour que les gens puissent se repérer dans le bâtiment. Et alors nous, on a un bâtiment un peu vaste, 3 500 m², et surtout on a des populations très diverses qui entrent dans ce bâtiment. Des gens qui viennent manger au restaurant, des artistes qui viennent s'entraîner, des artistes qui viennent créer des spectacles, des entreprises qui viennent s'initier au cirque ou faire un séminaire, les salariés que nous sommes, que je représente, les équipes des compagnies artistiques qui ont leur bureau ici. Donc c'est vraiment tout un tas de gens très différents qui rentrent dans ce bâtiment avec des préoccupations tout à fait différentes et qui doivent quand même se repérer, s'orienter. Et c'est important. Parce que c'est aussi, il y avait aussi derrière cette idée-là de soulager un peu mes collègues de l'accueil qui passent beaucoup de leur temps à orienter les gens, parce qu'ils rentrent dans ce grand bâtiment et est-ce que la salle est à droite, est-ce qu'elle est à gauche, comment savoir quand on arrive pour la première fois ici. Donc il y avait vraiment un enjeu de signalétique au sens plein du mot, en fait. Il faut signaler, orienter, faciliter le déplacement des personnes dans le bâtiment. Donc vraiment le projet, il naissait là. Dans cette démarche, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs questionnements qui ont été alors à la fois travaillés uniquement au sein du service communication, puis aussi partagés avec notre direction, partagés avec nos collègues. On s'est posé cette question très simplement, c'est que les deux salles qui sont, enfin les trois salles pardon, qui sont au cœur de la Grainerie, que sont la salle d'entraînement, qui est un lieu unique en Europe, puisque c'est une salle qui fait plus de 18 mètres de haut pour accueillir une plateforme de trapèze à 12 mètres et nous permet la pratique du trapèze grand volant dans un espace en dur. On peut toujours en faire sous chapiteau, mais en hiver, le chapiteau, c'est plus froid quand même. Donc il y a quand même des artistes du monde entier qui viennent travailler le trapèze volant chez nous. Donc il y a cette salle-là qui est emblématique et qui est un peu comme une espèce de poumon, d'ADN de ce qu'est la Grainerie dans son histoire. C'est un lieu imaginé par des artistes pour des artistes. C'est ça l'histoire et la jeunesse de cet endroit. Et puis il y a deux salles de spectacle que ici on avait coutume d'appeler la salle de diffusion pour dire que c'était là où on programmait les spectacles une fois qu'ils étaient terminés, on les diffuse. Et une salle de création qui est plus petite et qui est une salle où ben, justement on venait créer son spectacle. Mais sauf qu'en fait, création et diffusion, pour les gens qui viennent voir des spectacles, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, salle de création, ils peuvent vaguement s'en faire une idée. Salle de diffusion, franchement, c'est du langage technique pour les gens qui travaillent dans le spectacle, mais ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et donc, c'est vraiment... Alors, c'est un peu fortuit. C'est né d'un déjeuner que je faisais avec le graphiste avec qui nous travaillons, Nicolas Froment, de l'atelier Carte Blanche. Une collègue de travail... Clara, qui travaillait la communication avec moi, on déjeunait ensemble et on a discuté et on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse à cette histoire de salle de diffusion, salle de création, c'est pas clair. Grande salle, petite salle, comme c'est de coutume dans les théâtres, on peut voir ce genre de dénomination, mais bon, c'est pas très original, ça avait le mérite au moins de dire les choses, hein, une grande salle, une petite salle, ok. Et puis je crois que c'est notre collègue Hélène, qui travaille au projet européen, qui a dit, mais on pourrait les nommer ces salles. Par exemple, on pourrait avoir une salle Jules Léotard. Et puis, en fait, c'est venu comme ça. C'est venu en disant, bah tiens, en fait, on va nommer les salles. Et on a discuté, alors là, pour le coup, ça a été discuté à la fois avec mon directeur. Directement, je lui ai fait des propositions qui étaient issues de ce déjeuner, hein, très simplement. Comme quoi, il y a des fois des choses dans les temps informels qui naissent et qui vont structurer un lieu. On a discuté avec Serge, on a évoqué donc Jules Léotard, ça paraissait assez évident. Puisque Jules Léotard, donc, c'est un artiste du 19e, 20e siècle qui a inventé justement la pratique du trapèze volant, puis qui a inventé aussi le maillot de corps qu'on appelle le Léotard, qui est cette espèce de maillot collant que portent les trapézistes. Donc il y avait une espèce d'évidence. Et puis Jules Léotard, c'est un Toulousain, donc il y avait vraiment une évidence à ce que cette salle porte le nom de cet inventeur d'une discipline majeure du cirque aérien. Et puis est venu assez vite le nom de Jeannette MacDonald. Alors Jeannette MacDonald, c'est une artiste de cirque qui a eu son heure de gloire dans les années 50. C'était une dompteuse de fauves assez incroyable, qui était vraiment très connue et qui a eu énormément de succès à son époque. Elle était elle-même fille de dompteur, mais elle avait un geste assez particulier, elle embrassait ses fauves. Donc c'était un truc assez fou à l'époque. Il faut avoir en tête quand même qu'elle a fait son entrée seule dans une cage aux fauves à l'âge de 14 ans. Donc on est vraiment dans cette tradition du cirque des enfants de la balle, hein, vraiment on est là. Et Jeannette MacDonald, on le sait peu, alors elle a eu son heure de gloire et elle a fini sa vie vraiment de manière assez misérable, malheureusement. Elle a rapatrié ses fauves à Buzet sur Tarn, comme une espèce de zoo, et elle a fini sa vie en 1999. Elle est morte à Grenade, non loin de Toulouse. Il y avait aussi cette histoire-là, en fait, d'une figure emblématique du cirque, et puis des dompteuses de fauves, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Et il se trouve que voilà, cette femme a choisi de finir ses jours près de Toulouse. Et puis est venue dans la conversation avec Serge Boras, notre directeur, le nom de Suzanne Marcaillou. Donc c'est une artiste, pareil, plutôt années 40-60, fin des années 40, 50-60, qui avait un numéro de cadre aérien avec son mari, qui s'appelait les Antinous. Et il se trouve qu'en ce moment, une artiste plus jeune, Suzanne Marcaillou a 90 ans aujourd'hui, elle vit à Toulouse. Anna Tauber et Fragan Gelker ont choisi de mettre en scène un spectacle à mi-chemin de la conférence, de la vidéoconférence, où ils racontent justement l'histoire de Suzanne Marcaillou à travers des entretiens que Anna a fait avec elle. Ce spectacle sera présenté en juin à la Grainerie cette année. Et donc il y avait une espèce comme ça d'alignement des planètes qui témoignait de manière assez forte de la manière dont Toulouse, en fait, est une terre de cirque. Cette région est une terre de cirque, la région Occitanie. Et quand je dis ça, c'est d'ailleurs qu'il y a une réalité factuelle, c'est qu'aujourd'hui, la région Occitanie, c'est la région qui compte le plus grand nombre de compagnies qui ont leur siège social sur ce territoire. C'est plus de 270, c'est devant l'Île-de-France. Donc c'est un fait marquant. Et c'est aussi une région qui, historiquement, est structurée avec le cirque, puisqu'on a deux pôles nationaux, à Alès et puis à Auch, donc respectivement la Verrerie et puis Circa. On a une école supérieure des arts du cirque à Toulouse, les ACTO, qui est née aussi du centre municipal des arts du cirque, qui est plus ancien, le Lido. Donc on a l'une des trois écoles supérieures à Toulouse, on a ces deux pôles cirque dans la région, on a une école préparatoire à Montpellier, le centre des arts du cirque Balthazar, et puis on a la Grainerie, qui est une fabrique des arts du cirque, une espèce de maillon finalement entre l'école et le pôle national. Et donc il y avait une volonté en fait, en rappelant cette histoire, ce terreau du cirque toulousain et autour, une manière ben, finalement de rappeler de manière assez simple que ben, la Grainerie elle s'inscrit dans cette histoire du cirque, elle en fait partie. Et donc c'était à la fois une façon de rendre hommage et fémage à ces artistes de cirque. Et voilà, de rappeler en fait que cette terre d'Occitanie et ce territoire toulousain un peu élargi sont des terres de cirque historiquement. C'est pas juste quelque chose qui est né dans les années 90. Ça vient de bien plus loin.
Est-ce que vous pensez que Madame Marcaillou pourrait venir inaugurer cette salle ?
On croise les doigts. Je dirais qu'on le désire ou qu'on le souhaite. Et ça, on laisse le soin à Anna Tauber, donc l'artiste qui présente ce spectacle qui s'appelle Suzanne, bah de voir avec elle ce qu'elle aura envie de faire. Voilà, au début, je me souviens, on peut raconter pour l'anecdote, on avait eu envie de nommer la salle Suzanne Marcaillou. Mais c'est elle-même qui nous a dit, ah bah non, je suis désolé, moi ce numéro de cadre aérien, je l'ai fait avec mon mari toute ma vie. Et notre nom de scène, c'est les Antinous. Ça a été validé en conseil d'administration au sein de l'association de la Grainerie. C'est une manière de faire histoire, mais ça va être aussi un moyen très très efficace pour orienter les gens en fait. Quand ils arrivent dans la Grainerie aujourd'hui, il y a un immense plan où ils vont salle Jeannette MacDonald, salle Les Antinous, salle Julie Lothard, qui est la salle d'entraînement.
Avez-vous un souvenir de cirque, un spectacle avec des artistes qui vous ont marqué ?
Je pense que je pourrais parler d'un spectacle d'Angela Laurier, qui nous a quittés il y a un an ou deux maintenant, qui s'appelait Déversoir, où elle avait mis en scène la schizophrénie de son frère. C'était la première fois que je voyais un spectacle de cirque autobiographique. C'est la première fois aussi que je voyais où le cirque de création pouvait emmener cet art-là, en fait. Angèle Laurier était une artiste de contorsion. Comment son corps, à un moment, exprimait toute cette relation si particulière qu'elle avait à son frère. Ce spectacle a été marquant, parce qu'en fait, il montrait toute la puissance qu'ont les arts du cirque à s'emparer, finalement, des grands sujets de l'art, que sont la question de soi, le temps, la mort, la vie, le rapport à l'autre, l'amour. Enfin, les sujets qui traversent l'art depuis qu'Homo sapiens est Homo sapiens, enfin, je veux dire, c'est... Finalement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui préoccupe les êtres humains depuis toujours, en fait. Et là, je voyais un spectacle où le cirque, comme je le savais pour la littérature, comme je le savais pour le cinéma, comme je le savais pour la peinture, je voyais un spectacle de cirque qui s'emparait, en fait, d'un sujet artistique éminemment puissant, qui est la question de l'autobiographie. Et j'étais frappé par ce spectacle. Donc voilà, Déversoir de Angèle Laurier, qui a été un spectacle marquant pour moi. Je pourrais citer Appris par corps, qui est, je crois, le premier spectacle de la compagnie Un loup pour l'homme. J'avais jamais vu deux hommes explorer à ce point-là la question de l'altérité, d'un duo de main à main qui était assez dingue, d'une puissance forte, vraiment touchante pour les gens qui ont vu ce spectacle. Avec une dramaturgie impeccable, en fait, on passait du père au fils, aux amants, aux amis, aux frères ennemis, enfin, aux combattants, tout y était, en fait, et il y avait entre ces deux hommes vraiment à la fois toute l'altérité masculine, mais aussi toute l'altérité humaine, en fait. Puisqu'au fond, il se trouve que c'était deux hommes au plateau, mais ce spectacle a été remis en scène avec des femmes. Donc c'était vraiment cette question de l'altérité. Et là aussi, avec une puissance dingue. Donc ça, vraiment, c'est des vieux spectacles, mais qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je pourrais citer plein de compagnies qu'on accueille ici régulièrement, qui, moi, me touchent parce qu'elles sont à des endroits qui peuvent être, par exemple, au croisement des arts plastiques, de la performance, de la musique et du cirque. Je pense à la compagnie catalane Somnoise. Je pense aussi à Olga Cirque Analogique, qui, pour moi, sont des formes où là on est dans quelque chose qui est à la fois qui peut être dans le récit de soi, dans l'exploration des questions de genre avec la présence de la musique électro, du noir et blanc. Enfin, là on voit comment le cirque est vraiment dans toute son histoire un art de l'emprunt, comment il est capable d'appréhender, d'absorber, de digérer et de redonner tout ce qu'il peut emprunter aux autres formes artistiques. Et ça, c'est une qualité incroyable des artistes de cirque.
Où peut-on retrouver les actus de la grainerie ?
Alors, on peut les retrouver sur la-du-6-grainerie.net et on peut les retrouver aussi avec plus d'actualité et des fois plus de détails sur nos réseaux sociaux. Donc on retrouve la grainerie sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Et on retrouve des activités plus institutionnelles et plus internationales sur notre page LinkedIn. Mais en tout cas, pour le public, il y aura toutes les infos sur nos spectacles et nos activités au quotidien sur Insta et sur Facebook.
Tu fréquentes le milieu culturel et des arts vivants depuis un certain temps maintenant. Comment est-ce que tu as vu évoluer la culture et spécifiquement le cirque depuis 10, 15, 20, 30 ans ?
Moi, je me souviens quand j'ai renoué avec le cirque, je devais avoir 25, 26 ans. C'était avec une super compagnie suédoise qui s'appelle Circus Circor, qui fait des très grands spectacles à gros moyens. Voilà. Et c'est la première fois que je voyais une narration et une scénographie vraiment majeure. Et je me dis, ah ouais, waouh, c'était loin du chapiteau traditionnel où j'étais allé enfant. Et quand je dis ça, attention, hein, j'ai aucun mauvais souvenir de chapiteau traditionnel. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Voilà, moi, quand j'ai 25-26 ans, au début des fin des années 80, début des années 90, et on est en plein déploiement de ce qu'on a appelé le nouveau cirque. On pense notamment à Annie Fratellini, avec ce travail, finalement, de théâtralisation, de poétisation du cirque, avec la prise de la parole et tout ça. Et donc, commence une évolution des codes, en fait, de ce que pouvait être le cirque traditionnel vers des formes différentes, plus théâtrales. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'art de l'emprunt, en fait, c'est-à-dire que le cirque n'a jamais cessé en vérité. Il a emprunté aux arts forains. Et donc finalement, aujourd'hui, qu'il y ait du cirque, qu'il soit au croisement de la performance, des arts plastiques, bah oui, en fait, c'est très évident, en fait, c'est très normal de la part des artistes de cirque, ce sont des artistes qui sont itinérants, souvent internationaux, donc ils vivent comme ça le monde, je dirais, avec une espèce de pulsation. Très en proximité avec ce qui se passe autour d'eux, ils le prennent, ils l'absorbent et ils le traduisent dans leur discipline. Et sur la question de l'évolution des arts du cirque, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a eu ce truc de... Alors, il y avait le cirque traditionnel, il y a eu le nouveau cirque, et je trouve qu'aujourd'hui, cette distinction, elle tend pas complètement à s'effacer, puisqu'il y a vraiment des gens qui revendiquent, et avec toute la légitimité qui est la leur, un cirque traditionnel. Mais dans ce qu'on appelle, nous, ici, le cirque de création... moi, je dis souvent l'expression des cirques d'aujourd'hui. Moi, je parle des cirques d'aujourd'hui parce qu'en fait, on voit, par exemple, on a vu il y a quelques années les jeux icariens, qui sont des jeux de propulsion avec un porteur couché et propulsion avec les pieds et les mains, qui était une discipline très en vogue dans les années 30. On l'a vu ressurgir dans les années 2010-2020. Moi, ça fait 5 ans que je vois réapparaître le lancer de couteau. En plus, j'adore ça. Donc, je suis vraiment très heureux que de jeunes artistes s'emparent de cette discipline des lancers de couteau, qui est vraiment à cet endroit de la peur et du risque. Le spectateur du cirque que je suis adore. Pour moi, cette espèce de question de est-ce que je fais du cirque traditionnel, est-ce que je fais du cirque contemporain, j'ai le sentiment... Ouais, elles sont un peu dépassées ou elles sont, en tout cas, elles sont re-questionnées avec finalement des artistes d'aujourd'hui qui embrassent toute l'histoire de leur discipline, tout ce qu'ils peuvent en faire et tous les moyens aussi qui sont autour d'eux, que ce soit des moyens technologiques, de partage d'informations, parce qu'en fait, tout ça est aussi en fait lié à des phénomènes de globalisation numérique où les images, les gestes, les mouvements se transmettent beaucoup plus vite. Et finalement, ces distinctions qui étaient peut-être nécessaires encore au XXe siècle et au début du XXIe, je trouve qu'elles tendent à s'estomper, et tant mieux. Parce qu'en fait, voilà, tant mieux si on peut se réjouir aussi bien d'une toupie ultra technologique avec de la musique électro qu'un lancer de couteau qui illustre finalement le récit d'une vie, quoi. Et alors là, les spectateurs ont tout le loisir d'aller découvrir ce qui les intéresse, ce qui les rend curieux... Donc ouais, l'évolution, je la verrais comme ça. Je trouve qu'il y a, vraiment, en tout cas moi, j'observe ça de la part de jeunes artistes, une capacité très naturelle et une forme d'aisance à aller chercher ce dont ils ont besoin dans l'histoire de leur discipline, en fait, et à s'en saisir et à la placer aujourd'hui. Donc elle est très contemporaine parce qu'elle est d'aujourd'hui, mais elle n'est pas sans histoire, sans lien avec ce qui a pu se passer dans le passé. Moi, j'invite vos auditeurs et vos auditrices à venir voir, par exemple, le Cirque Queer, qui vraiment, pour moi, incarne ça, en fait. Comment des artistes d'aujourd'hui, invoquant des cultures d'aujourd'hui, enfin des questions de genre qui nous sont si essentielles à nos sociétés, mais avec finalement des moyens comme le lancer de couteau, comme les feuillages, qui voilà, évoquent vraiment l'histoire du cirque voilà, de la fin du 19e à nos jours. Et ça, c'est vraiment un super exemple de ça, de cette frontière estompée entre différentes formes de cirque.
Le cirque est resté le même, finalement.
Il est resté lui-même. Tout ça, je dirais. Il a beaucoup bougé, en fait. Il a beaucoup évolué, mais il est resté lui-même. Ouais.
Merci pour votre intervention.
Merci à vous pour vos questions.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.